Alors pour les Britanniques, la signature définitive du traité doit ouvrir à ce qu'ils appellent le NECMU, New Era of Cooperation and Mutual Understanding, avec l'Égypte, le NECMU. Mais ça ne va pas durer longtemps, même si au début Nasser semble jouer le jeu. Il promet même de cesser de faire campagne contre l'impérialisme, en général, et les Britanniques en particulier. Le 26 octobre 1954, dans un grand meeting à Alexandrie, pour célébrer le traité, quelqu'un tire sur Nasser et blesse son voisin. Le tireur est arrêté et se révèle être un membre des frères musulmans. Alors, il y aura plus tard discussion pour savoir si c'était un attentat simulé ou non. J'en ai discuté avec Jean Lacouture, qui était témoin des faits. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de simulation, que réellement on a tiré et la balle est vraiment passée très près de Nasser. Et que donc la thèse du faux attentat doit être écartée. Suite à l'événement, c'est une formidable campagne de répression contre les frères musulmans en Égypte, des milliers d'arrestations, des gens torturés, des exécutions capitales, etc. C'est un tournant essentiel de l'histoire du Proche-Orient, puisque c'est là où le mouvement islamiste et le mouvement nationaliste arabe s'opposent pour la première fois frontalement, avec du sang coulé, entre les deux grandes tendances politiques du monde arabe. Alors, il faut bien comprendre ce contexte pour comprendre la dureté du tribunal égyptien. C'est en pleine campagne de répression contre les frères musulmans qu'il y a eu le verdict du Caire. Et les Égyptiens ont dit qu'on ne pouvait pas ne pas condamner à mort des agents sionistes alors qu'on exécutait des frères musulmans en même temps. Alors, durant tous ces événements, il y a eu négociation. D'autant plus qu'il semble que Nasser ait cru réellement que Moshe Charette n'y était pour rien. Après tout, Nasser a participé à tellement de complots, on a connu tellement en Égypte, que ça lui a paru à un moment vraisemblable que les services israéliens aient agi sans l'aval du gouvernement israélien. Et ça irait plutôt dire dans le sens de la thèse que les services israéliens étaient manipulés par les services égyptiens. Donc, il y a eu une négociation secrète entre l'Égypte et Israël durant toute cette période. Il y a eu aussi des négociations secrètes entre Nasser et les Américains. Nasser a demandé une aide militaire aux États-Unis. Les Américains ont dit oui à condition qu'il y ait une mission militaire pour encadrer le programme. Nasser a dit qu'il ne pouvait pas admettre de militaires américains sur le sol de l'Égypte au moment où les Britanniques partaient. Ça aurait fait mauvais effet. Donc, la CIA a proposé à ce moment-là qu'on double l'aide civile américaine à l'Égypte de 20 à 40 millions de dollars et que les 20 millions de dollars excédentaires servent à l'Égypte pour acheter, par jeu d'écriture, des armes sur le marché international. De l'argent cash qui serait largué directement pour la CIA. Nasser a rejeté l'offre américaine, mais les agents américains ont laissé une enveloppe de 3 millions de dollars cash sur le bureau en partant. Et Nasser a été furieux, et pour montrer qu'il ne se laissait pas avoir, il a utilisé l'argent pour construire une tour de télécommunications. Au Caire, qui est surnommé, entre autres en Égypte, le cadeau de la CIA. Enfin, il y a d'autres noms qui sont donnés aussi. C'est pour montrer qu'il y avait apaisement. Apaisement relatif, c'est que durant tout cet automne, c'est calme dans la ligne d'armistice entre l'Égypte et Israël, parce que finalement, les uns et les autres ont intérêt que ce soit calme. Donc, c'est l'apaisement. Du côté de l'ONUST, ils reçoivent un nouveau chef d'état-major, qui est un Suédois, un Canadien, pardon, le général Burns, que vous voyez ici avec le secrétaire général des Nations Unies, à Marsjold. Donc, c'est un général canadien qui a servi en Italie durant la Seconde Guerre mondiale et qui a ensuite exercé un certain nombre de responsabilités dans le cadre de l'ONU. Son premier travail, ça a été de régler ces histoires de prise d'otages et de prisonniers entre les Jordaniens et les Israéliens. Il a réussi à trouver une solution, mais il pense que tout ça n'est pas sérieux parce que au prochain raid de représailles, de nouveau, on entrera dans l'engrenage. On essaye de refaire fonctionner la commission d'armistice jordano-israélienne, mais le problème, c'est qu'il y a 1500 plaintes en souffrance, donc il faudrait d'abord écluser les 1500 plaintes précédentes avant d'examiner les nouvelles, ce qui est évidemment quasiment impossible. Mais personne, on n'arrive pas à se mettre d'accord pour éliminer les plaintes en souffrance. En août 1955, on en sera à 2150 plaintes réciproques en souffrance. Alors Burns travaille à essayer de mettre le maximum de facteurs d'apaisement. Alors il fait installer des postes permanents d'observation dans les secteurs dangereux. Mais là encore, on se heurte à la problème de la souveraineté des uns et des autres. Ils voudraient obtenir que réciproquement les uns et les autres diminuent leurs forces selon la ligne d'armistice, mais là encore, ça se révèle impossible. Au contraire, on multiplie les patrouilles d'un côté et de l'autre. Alors, il faut se rappeler que ni les Israéliens ni les Arabes n'acceptent de mettre des réseaux de fils barbelés ou de grillages le long des lignes d'armistice. Ce sont des lignes fictives sur lesquelles il n'y a aucun obstacle naturel. Il faut savoir où elles passent. De surcroît, les gens sont extrêmement nerveux. Le moindre berger arabe avec sa troupeau qui passe à côté de la ligne d'armistice est considéré par les Israéliens comme un infiltré potentiel. Et dès qu'il dépasse de 20 cm la ligne supposée être la ligne d'armistice, puisqu'il faut savoir exactement où elle passe, on tire. De l'autre côté, le moindre soldat jordanien qui voit un soldat israélien pense immédiatement que c'est une opération de représailles et tire sans réfléchir. Donc, il y a une nervosité des deux côtés qui accentue la violence. Et il est impossible d'arriver à faire simplement des accords de coopération entre les deux armées qui mettraient des lignes téléphoniques entre le secteur israélien et le secteur jordanien ou égyptien. Pourtant, à l'automne 1954, le calme s'établit progressivement sur la ligne d'armistice israélo-jordanienne. Alors, les activistes israéliens triomphent en disant « c'est grâce à moi, enfin, c'est grâce à nous, grâce à la politique de représailles », et les modérés disent « c'est parce qu'on a arrêté de faire des représailles que ça se calme ». Les événements pouvant justifier les deux positions. En Jordanie, il y a des élections entre guillemets libres. Ghleb Pacha fait voter l'armée là où il y a des circonscriptions électorales où les gouvernementaux seraient en difficulté, ce qui est une méthode fort peu démocratique. Mais enfin, bon, le Premier ministre a une majorité confortable. On a surtout un calme relatif qui permet maintenant aux Occidentaux de commencer à réfléchir. Alors, il faut revenir aux initiatives américaines. Les Américains avaient désigné un expert hydraulique pour discuter d'une répartition des eaux de Jourdain. C'était Eric Johnston, qui avait travaillé sur la répartition des eaux de Jourdain sur la base de ce qu'on appelait la TVA, Tennessee Valley Authority, le grand succès hydrologique américain des années 1930. Et c'est des ingénieurs américains qui sont venus faire les premières études pour la répartition. Alors, il y a plusieurs plans qui sont élaborés. Le premier plan, qui est le plan de la TVA, donc, qu'on va appeler le plan Maine. Donc voilà, vous avez ici, vous avez les eaux du Jourdain, avec donc les différents influents du Jourdain, qui sont là compte tenu qu'évidemment le Jourdain se jette dans la mer Morte, mais qu'il ne reste plus beaucoup d'eau quand on arrive à la mer Morte parce qu'on a consommé en route. Donc, on a le plan Maine, du nom de l'ingénieur de la TVA, qui fait le premier projet de distribution des eaux. Le contre-plan arabe, qui prévoit une distribution arabe en faveur des Arabes. Et puis le plan Cotton, qui est le plan israélien. Donc, vous voyez que les rapports ne sont pas les mêmes. Le dunam, c'est le dixième, ce qu'on appelle le dunam, c'est une unité qu'on appelle le dunam métrique, c'est-à-dire un dixième d'hectare. Donc, vous voyez, selon le plan Maine, les Israéliens auraient 416 000 dunams à irriguer. Selon le plan arabe, ils n'en auraient que 234 000. Tandis que sur le plan Cotton, ils auraient 1 790 000. Vous voyez que les propositions de départ ne sont pas exactement les mêmes. Puis vous avez la distribution en mètres cubes d'eau. Et vous avez enfin les kilowattheures qu'on peut tirer du système hydraulique et le coût en dollars et le plan de construction. Donc vous voyez, c'est un schéma un peu complexe, mais qui vous donne, j'espère, si c'est lisible d'ici, que vous avez à peu près les lignes d'orientation. Alors, à partir des trois plans, Johnston se rend de nouveau avec ses experts pour modifier et préciser les données en juin 1954. Johnston accepte tout de suite fondamentalement le point de vue arabe qu'il est absolument exclu que le Litani soit considéré comme faisant partie des eaux de Jourdain, puisque le bassin hydrographique du Litani est intégralement à l'intérieur des territoires libanais et que donc il ne peut pas être compris. Alors que le plan Cotton, évidemment, intègre les eaux du Litani. Les Arabes, en revanche, se montrent intransigeants sur la question du transfert d'une partie des lots en dehors du bassin du Jourdain. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Arabes refusent le principe que l'eau du bassin du Jourdain soit transférée vers le Negev. Ils veulent bien une répartition des eaux, mais à condition qu'on reste à l'intérieur du bassin du Jourdain, qu'il n'y ait pas de transfert. La question suivante, c'est le réservoir. La position israélienne, c'est que le réservoir naturel, c'est le lac de Tibériade. Mais les Arabes ne veulent pas que le réservoir se trouve intégralement en secteur israélien et souhaiteraient qu'on construise des réservoirs annexes par des barrages sur le fleuve du Yarmouk, qui est en amont, là, du Jourdain. Enfin, c'est le problème principal, c'est que pour faire fonctionner l'ensemble, il faut une tutelle internationale. C'est-à-dire que, comme il n'est pas question que les Arabes et les Israéliens puissent s'entendre directement, il faudrait qu'on mette en place une instance de contrôle gérant la répartition des eaux entre Israël et les États arabes. Mais les Israéliens, qui sont encore plus susceptibles que les Arabes en question de souveraineté, refusent le principe du contrôle international, toujours par défense de la souveraineté israélienne. Et c'est donc l'impasse relative. Cela dit, les experts continuent de travailler font de nouveaux relevés de terrain, ce qui permet d'introduire une nouvelle répartition potentielle des eaux du Jourdain, 35 millions de mètres cubes pour le Liban, 132 millions de mètres cubes pour la Syrie, 540 pour la Jordanie, la divisée entre 280 du Yarmouk, 260 du lac de Tibériade, 430 millions de mètres cubes pour l'Israël, plus 62 venant du drainage de la coulée. Il ne faut pas se laisser piéger par les chiffres, parce qu'en fait, chacun des chiffres doit être pris dans un coefficient qui comprend la salinité de l'eau. Le problème étant que, d'une part, vous avez de l'eau pure qui arrive de certains affluents du Jourdain, donc qui sont absolument vitaux, alors que quand on utilise, c'est encore valable aujourd'hui, hein, comme on utilise le lac de Tibériade comme réservoir, vous avez automatiquement de l'évaporation. Et donc, de façon constante, le degré de salinité du lac de Tibériade augmente. Et donc, sur chacun des paramètres, on doit tenir compte de la part de salinité de l'eau. L'eau la plus pure venant du Liban, c'est-à-dire les effluents du Jourdain qui clouent le Liban, qui sont le Hasbani et le Wazani. Alors, les Israéliens refusent cette répartition et donc on rediscute ce qui amène en février 55 à ce qu'on appelle le plan révisé, qui donne 425 millions de mètres cubes à Israël, 500 millions à la Jordanie. Quand on dit Jordanie, ça comprend la Cisjordanie, hein, évidemment. 132 millions à la Syrie et 32 millions au Liban. Il y a un net rapprochement des positions, mais on est encore loin d'un accord final. En théorie, jusque-là, on a négocié qu'au niveau des experts. Experts israéliens, experts arabes, avec les experts de la mission Johnston, mais les gouvernements n'ont officiellement pas été saisis du dossier. Alors, pour les Occidentaux, le progrès de la mission Johnston est déjà un immense succès. Et Eden est vraiment au sommet de sa carrière. Il vient de succéder à Churchill, qui a démissionné et qui est parti à la Chambre des Lords après le traité anglo-égyptien. Eden, c'est l'homme qui a mis fin à la guerre d'Indochine lors de la conférence de Genève. C'est lui qui a réglé la question du réarmement allemand. C'est lui qui est l'homme de la détente avec l'Union soviétique, ce qu'on appelle la première détente avec le traité de neutralité de l'Autriche qui a amené le départ de l'armée rouge de l'Autriche. C'est lui, ça on peut moins s'en vanter, qui avec les Américains a organisé le coup d'État à Téhéran pour mettre fin au régime nationaliste de Mossadegh et régler la question du pétrole iranien. C'est lui qui a mis fin à l'affaire égyptienne. Et même les différents contentieux sont réglés. Donc il ne reste plus pour Eden que, pour achever sa carrière, que de mettre fin au conflit israélo-arabe. Alors, on commence une négociation qui est d'abord une négociation, évidemment, entre le représentant d'Eden, un diplomate de carrière, Elvin Schoenberg, et Francis Russell, du département d'État. Donc là, vous avez Schoenberg qui fait d'abord une tournée du Moyen-Orient d'ambassade en ambassade pour consulter. Il réunit une conférence des ambassadeurs britanniques au Moyen-Orient, à Beyrouth, pour consultation avant de commencer la négociation avec les Américains. Et là, je vais me mettre aussi fort. Pour qu'il n'y ait pas de jaloux, vous avez l'Américain ici, Francis Wessel, qui représente le département d'État. Alors, Zuckerberg voit évidemment que les acteurs régionaux sont totalement irrationnels, ce n'était pas un scoop, puisqu'en privé, ils se déclarent favorables à toute solution politique, mais en public, ils disent qu'elle est impensable. Alors, Zuckerberg essaye de travailler à une solution où il n'y aurait ni vainqueur ni vaincu. C'est-à-dire obtenir d'un côté des concessions israéliennes, en particulier sur le plan territorial, contre l'acceptation d'Israël par les pays arabes, la fin de toute hostilité, le tout couvert par des garanties internationales à l'ensemble des pays concernés et de grosses carottes économiques qui seraient aussi offertes à l'ensemble des acteurs pour que la paix soit plus profitable que la guerre, la question des réfugiés étant réglée par un processus de compensation matérielle et de réinstallation dans les pays arabes. Les enquêtes étant terminées, la négociation entre Britanniques et Américains commence. Elle va prendre le nom de code Alpha. C'est la négociation Alpha, c'est le plan Alpha entre Zuckerberg et Wessel. Donc la négociation Alpha commence le 21 janvier 1955. Elle dure jusqu'à le début de février 1955. On réfléchit qu'il faudra surtout agir par des incitations matérielles. Autrement dit, on va intégrer l'Égypte dans le projet en lui offrant une grosse compensation matérielle qui serait le financement occidental de la construction d'un haut barrage à Assouan. À la Syrie, Jordanie et Liban, on financera le plan hydrographique de mise en valeur du bassin du Jourdain. Avec cela, on emploiera les réfugiés palestiniens comme main-d'œuvre et avec les terres en irrigation, on pourra réinstaller les réfugiés. Donc, c'est les carottes. Avec Israël, on donnera d'autres financements, etc. Donc, il y aura traité de paix final avec signature conjointe des pays concernés, de la Grande-Bretagne et des États-Unis, et éventuellement de la France. La ligne d'armistice sera légèrement modifiée pour régler les questions des zones démilitarisées, améliorer la situation en Cisjordanie et surtout créer un couloir de communication dans le Negev entre l'Égypte et la Jordanie. Donc la priorité doit être donnée à l'Égypte. On fera comprendre à Nasser que s'il est prêt à prendre la direction du mouvement, les Occidentaux lui reconnaîtront l'hégémonie sur le monde arabe. Eden, qui doit se rendre en Asie pour la réunion au sommet de l'OTAZ, fera escale au Caire le 20 février 1955 pour sonder Nasser sur ce plan. En même temps, on transmettra des messages oraux au gouvernement israélien. Alors, si vous voulez, pour être clair, l'analyse politique actuelle du Moyen-Orient réside en gros sur la politique de l'erreur, politique of miscalculation, doublée de la politique de l'erreur d'estimation, miscalculation, misapprehension. Fondamentalement, toute politique moyen-orientale qui se respecte est fondée sur l'erreur de calcul et l'erreur d'estimation des facteurs qui sont en jeu. Tout ce qui s'est passé depuis 2001 en est la démonstration la plus éclatante. Alors, c'est la même chose ici. Nous sommes en pleine politique of miscalculation. Alors, pourquoi? Bon, d'abord, parce que l'individu est faillible, donc par définition, ça fait partie de la contingence humaine, mais c'est pas seulement ça, c'est parce que le système politique moyen-oriental est totalement contradictoire. Alpha est engagé dans la perspective de faciliter la lutte contre l'Union soviétique en mettant fin à l'instabilité du Moyen-Orient et à l'hostilité de l'opinion publique du Moyen-Orient contre l'Occident. Mais vu du Caire, ce n'est pas la même chose. le traité anglo-égyptien est là pour donner à l'Égypte la domination régionale. Et pour que l'Égypte ait la domination régionale, il faudrait que l'ensemble des pays du Moyen-Orient se désengagent de toute tutelle de toute alliance internationale. Ce qui ferait à ce moment-là que le rapport des forces serait en faveur de l'Égypte. Et c'est là, si vous voulez, toute l'ambiguïté du neutralisme. Le neutralisme est dans le tiers-monde le moyen pour une grande puissance relative du tiers-monde pour installer son hégémonie régionale. C'est le cas, par exemple, de l'Inde de Nehru. Et le Pakistan voisin, qui est dans un rapport de force défavorable, lui cherche l'alliance occidentale pour compenser la surpuissance régionale qu'est l'Inde. Au Moyen-Orient, c'est la même situation. Les États arabes, qui ne veulent pas de l'hégémonie égyptienne, cherchent au contraire l'alliance occidentale pour compenser le rôle de l'Égypte. Mais dans ce cadre-là, l'Irak a poussé vers le rapprochement avec l'Occident dans le cadre d'une alliance qui irait de la Turquie au Pakistan. Et ça, l'Égypte n'en veut pas. Alors, l'erreur fondamentale de la politique américaine et anglaise, c'est de lancer en même temps Alpha et le pacte de Bagdad, ce qui est totalement contradictoire. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on discute sur Alpha, les Américains et les Britanniques précipitent la conclusion de l'alliance du Northern Tier. Et Nasser s'y oppose et prend à partie la Turquie d'Anan Menderes, le premier ministre de Turc. Menderes, dans lequel vous reconnaîtrez évidemment le mot français méandre. C'est ça que ça veut dire Menderes, le méandre étant un fleuve d'Asie mineure. Donc, la Turquie de Menderes, qui veut aussi avoir une hégémonie régionale comme avant-poste de l'Europe occidentale au Moyen-Orient, puisque la Turquie fait partie de l'Europe. C'est comme ça que Annan Menderes se situe. Donc, c'est la Turquie qui pousse à la conclusion du pacte militaire. Et le 12 janvier 1955, c'est-à-dire au moment où la discussion Alpha commence, la Turquie annonce la prochaine conclusion d'un accord militaire avec l'Irak. Il semble qu'en fait, ce soit Menderes qui ait pris l'initiative, sans en référer aux Américains et aux Britanniques qui sont obligés de suivre. En Syrie, on n'en veut pas. Parce que si la Turquie renforce l'Irak, la Syrie sera quasiment forcée de fusionner avec l'Irak dans le plan de croissant fertile. Donc les nationalistes syriens n'en veulent pas. On voit très bien qu'en fait, le véritable enjeu de l'entrée de l'Irak dans le pacte, c'est la Syrie. Si la Syrie entre dans le pacte militaire après l'Irak, à ce moment-là, la Syrie sera avalée par l'Irak. La radio du Caire, à partir de fin janvier, se déchaîne contre l'Irak, accusé de trahir la nation arabe, de servir les intérêts de l'impérialisme, et automatiquement, on rajoute du sionisme, puisque c'est la même chose. Donc le Nekmout tout à l'heure, il s'est effondré dans l'intervalle. L'Arabie saoudite ne veut pas non plus du renforcement de l'Irak et finance un peu partout tous les adversaires du futur pacte. Et donc, à partir de début février 1955, Nasser se pose clairement comme champion populaire de la lutte contre l'impérialisme représenté par l'Irak de Nouri Saïd. Alors, arrive le 20 février, Anthony Eden au Caire. Alors, contrairement à la légende, il semble que les entretiens Eden-Nasser se soient bien passés. Seuls quelques gaffes Eden a invité Nasser à l'ambassade britannique, c'est-à-dire de lieu de quel les Britanniques ont gouverné pendant 75 ans l'Égypte, ce qui n'était pas psychologiquement utile. Alors Nasser en fait la remarque et Eden a dit, vous croyez, on peut être seulement conseiller. Mais enfin, ils s'entendaient bien, il y a même une photo officielle où ils se prennent la main, c'est Nasser qui a pris l'initiative là-dedans. Il est un peu contracté là, Eden quand même, mais ça c'est bien. Mais le problème c'est que à cause des discussions sur l'Irak, Eden n'a pas eu le temps vraiment de parler d'Alpha. Alpha qui était censé promettre à l'Égypte de lui donner l'hégémonie régionale au Moyen-Orient. Donc on a simplement évoqué brièvement l'affaire et Nasser a répondu que c'est une question de calendrier et qu'il faut d'abord régler la question des réfugiés. Car en fait on a parlé essentiellement du pacte futur du Northanty et l'Égypte a marqué son hostilité résolue à la signature de ce pacte. Or, trois jours après, le 23 février 1955, le pacte turco-irakien est conclu à Bagdad, donc il entrera dans l'histoire sous le nom de pacte de Bagdad. Ensuite, le Pakistan et l'Iran se joindront au pacte, ensuite, ainsi que la Grande-Bretagne, ce qu'on appellera donc à ce moment-là le CENTO, CVNTO, le pacte d'alliance qui ira de la Turquie au Pakistan. Donc, c'est la catastrophe pour Nasser. Dès le 26, Nasser réplique en appelant à la conclusion d'un pacte de défense arabe unifiant toutes les armées arabes. La France soutient plus ou moins Nasser dans cette affaire, parce que pour la France, le pacte de Bagdad, c'est le dernier moyen des Britanniques pour détruire le reste d'influence française au Moyen-Orient. Et la principale préoccupation de la France dans cette période, c'est de défendre l'indépendance de la Syrie contre les manœuvres irakiennes, ce qui est marqué dans les discussions franco-britanniques de février 1955. Et c'est là, évidemment, où tout s'interpénètre, parce que pendant ce temps-là, en Israël, c'est le désordre total. Lavon continue ses excentricités. Il avait donné son autorisation à des opérations destinées à intercepter les lignes de radio, enfin les lignes téléphoniques syriennes sur le plateau du Golan. Donc, les commandos israéliens passaient les lignes syriennes sur le Golan et mettaient des écoutes. Mais le problème, c'est qu'il fallait régulièrement renouveler les batteries, puisqu'à l'époque, on n'avait pas des systèmes très perfectionnés. Donc, ça impliquait que régulièrement, ils fassent des opérations clandestines en territoire syrien. Et le 8 décembre 1954, le commando israélien qui a passé la ligne est intercepté par l'armée syrienne et ses cinq membres sont faits prisonniers sans combattre. Nouvelle humiliation pour l'armée israélienne. De surcroît, les Israéliens ne veulent pas avouer que les cinq membres du commando ont été faits prisonniers en territoire syrien et disent que c'était en territoire israélien, ce qui est faux. Et les Israéliens répliquent en interceptant un avion de ligne syrien pour avoir des otages. Mais ça, évidemment, sans prévenir Charette. Charette, furieux, ordonne l'ordre de libérer l'avion syrien. C'est le premier détournement aérien de l'histoire du Moyen-Orient, semble-t-il. Mais on voit très bien que la dégradation de la prise de décision israélienne s'accélère. Par malheur, l'un des cinq prisonniers israéliens se suicide dans la prison syrienne de peur de devoir parler. Alors, les Israéliens parlent de torture. Il semble que ce ne soit pas le cas. On est allé juste seulement à la privation de sommeil comme moyen de pression. Et les Syriens disent qu'ils sont déjà bien gentils de les considérer comme des prisonniers de guerre puisqu'ils avaient été arrêtés en portant des costumes arabes. Et donc pas des uniformes militaires, c'est ce qu'on appellerait dans le jargon d'aujourd'hui des combattants illégaux. Donc déjà que les Syriens les considèrent comme des prisonniers de guerre, c'est déjà un geste de leur part. Alors dans tout ça, il faut bien comprendre que dans l'opinion publique israélienne qui est sous-informée, on confond l'affaire des Juifs du Caire avec celle du commando israélien, d'autant plus qu'on leur a dit que ça s'était passé sur le sol israélien, pas sur le sol syrien. Et donc, on trouve que le régime de Charet n'a pas d'autorité, que c'est un mot qui ne s'est pas se fait respecter, que Israël est en danger, etc. Alors, Charet, pour en finir, demande le départ de Lavon. Mais le parti n'en veut pas, il faut l'arbitrage de Ben-Gourion. Alors, jusqu'ici, Ben-Gourion était apparu comme protecteur de Lavon. Mais Lavon s'est tourné contre les protégés de Ben-Gourion, qui sont Moshe Dayan et Shimon Peres. Et il dit, c'est eux ou moi. Eh bien, c'est lui. C'est-à-dire que le 17 février, Ben-Gourion accepte de revenir au gouvernement comme ministre de la Défense. Donc, ça veut dire que Lavon est limogé. C'est à ce moment-là vraiment la situation la plus difficile, puisqu'Israël paraît complètement isolé. On commence à murmurer qu'il y a un plan mystérieux anglo-américain qui se prépare et qui serait défavorable aux intérêts israéliens. Alors c'est là où vous voyez les contraintes de la géopolitique. Si l'ensemble du Proche-Orient s'intègre dans le système de défense occidental, ça ne peut se faire qu'au détriment d'Israël. Parce que le prix à payer pour intégrer les pays arabes dans la défense occidentale, c'est des concessions sur le dossier israélo-arabe. Israël ne représente aucun intérêt pour les Occidentaux dans ces cas-là. Israël ne peut plus avoir recours au bloc de l'Est, comme en 1948. Puisque le bloc de l'Est est en train de basculer sur une position pro-arabe. Alors, la seule possibilité utile pour Israël, c'est qu'au moins une partie des États arabes paraissent alliés de l'Union soviétique. Mais dans ce cas-là, ça voudrait dire que l'Union soviétique va armer les États arabes. Donc, vous voyez, là, le jeu de contraintes qui amène à une paralysie de la situation israélienne. Le 23 février 1955, un groupe d'infiltrés venu de la bande de Gaza, apparemment il s'agit d'une mission de renseignement commanditée par l'armée égyptienne, pénètre assez profondément en territoire israélien. Le 25, ce groupe tue un passant israélien sur une route, puis est intercepté par l'armée israélienne et l'un des commandos est tué. Question impossible à savoir s'il avait instruction ou non de tuer des Israéliens ou si c'était simplement une initiative locale. Le 27 février, Ben-Gurion et Dayan demandent une opération de représailles, s'engageant à ce qu'elle soit limitée. Dayan dit « On tuera simplement 10 soldats égyptiens. » Ben-Gourion dira « qu'on détruira seulement des bâtiments militaires. » Sur cette base, Charet donne son accord. Il n'y aura pas de bain de sang. Le choix est fait d'une base militaire égyptienne au nord de Gaza. C'est Ariel Sharon qui mène l'opération avec 120 parachutistes. Problème dans la nuit du 28 février au 1er mars. Le problème, c'est que la colonne israélienne est repérée par une patrouille égyptienne et perd le bénéfice de la surprise. Et s'ensuit une série de combats confus qui fait 8 morts et 13 blessés chez les Israéliens, 36 soldats égyptiens tués, 2 civils égyptiens ou palestiniens tués, dont un enfant de 7 ans, 29 soldats égyptiens blessés et 2 civils blessés. Le communiqué militaire israélien parle d'une attaque égyptienne en territoire israélien suivie d'une contre-attaque israélienne à Gaza. Mais personne ne prend au sérieux le communiqué israélien, et il est clair qu'il s'agissait d'une grosse opération de représailles israélienne qui a mal tourné. Et d'ailleurs, les Israéliens sont obligés de se justifier en disant que s'ils ont agi comme ça, c'est parce que l'Égypte était en train de se renforcer militairement. Et donc, à chaque fois, ils s'enfoncent un peu plus, en montrant bien qu'il s'agissait d'un raid. Problème supplémentaire, la plupart des morts dans la bande de Gaza, même s'ils portent une uniforme égyptienne, sont des Palestiniens. Ce sont des gardes nationaux. Du coup, toute la bande de Gaza est secouée par une vague de colère. La population s'en prend aux bâtiments officiels égyptiens, aux installations de l'UNRWA et aux véhicules de l'ONUST. La répression de la police égyptienne fait plusieurs morts avant que l'ordre puisse être établi. Nasser est obligé de se rendre d'urgence dans la bande de Gaza et il est atterré par le spectacle qu'il y voit. En gros, il y voit un complot contre lui, qui est qu'au moment où il se trouve isolé face au pacte de Bagdad, les Israéliens ont démontré que l'armée égyptienne n'existait pas. Or, le régime nasserien est un régime militaire. Et il est atterré par le fait que l'armée égyptienne n'a pas d'armement lourd capable de résister, puisque les Britanniques étaient les fournisseurs essentiels de l'armée égyptienne, et pendant des années, ils n'ont rien fourni comme moyen de pression sur l'Égypte. Dès le 3 mars, Nasser s'adresse à l'armée et dit que jamais plus l'armée égyptienne ne sera victime de la trahison, comme en 1948. Et c'est la faute à l'impérialisme, au pacte de Bagdad, aux agents de l'impérialisme dont il faut libérer la terre arabe. Il donc lance un discours de plus en plus radical. Alors, le raid sur Gaza est considéré comme un tournant essentiel du conflit israélo-arabe, car il implique directement le régime des officiers libres dans la guerre et crée une dynamique de violence accélérée avec escalade continue. Seul le dirigeant de la région à en comprendre la logique perverse, c'est Charette, mais Charette est de plus en plus impuissant. Au contraire, Ben Gourion se fait un moindre plaisir, comme vous voyez ici, à s'afficher à côté de d'Ariel Sharon pour bien montrer qu'il soutient cette politique de représailles. Britanniques et Américains sont furieux parce qu'au moment où ils préparent la sortie d'Alpha, toute la région est en train de s'embraser dans la violence. Bon, alors on renvoie ça à l'ONU, discussion, etc. Finalement, condamnation plate de l'ONU, mais c'est pas grave. Le plus important est ailleurs. Le plus important, c'est que dès le début de mars 1955, Nasser déclare : nous répondrons à la violence par la violence. À tout acte de violence israélienne, nous répliquerons par un acte de même nature. Et à la fin mars, on commence à parler de l'organisation de nouvelles unités militaires égyptiennes composées de Palestiniens qui prendront le nom de Fedayin. Alors, de quoi s'agit-il? Le mot Fidaï, littéralement prêt à se sacrifier, a été utilisé dans l'islam médiéval pour désigner en particulier les agents de la fameuse secte des assassins, propre à beaucoup de fantasmes occidentaux. En dehors de cet usage médiéval, le mot fedaï n'a pas d'occurrence avant la fin du XIXe siècle, où il a été utilisé pour la première fois par les Arméniens des années 1890. Les commandos arméniens qui faisaient des raids contre les Turcs en Anatolie ou à Constantinople portaient le nom de fedaï. Donc, ce sont les Arméniens qui ont réintroduit dans la langue moderne du Moyen-Orient le mot fedaï. Ensuite, le mot a été utilisé en Iran durant la révolution iranienne de 1905. Les troupes du mouvement libéral révolutionnaire iranien portaient le nom de fedaïen. Et ensuite, il y a toute une continuité en Iran de différents mouvements portant le nom de Fedayeen dans l'histoire iranienne jusqu'aux années 50, 60 et au-delà. Le mot Fedayeen est utilisé pour la première fois en Égypte, dans la presse égyptienne, pour parler des combattants irréguliers égyptiens, en particulier frères musulmans, combattant en Palestine. Ensuite, il sert à désigner les combattants menant à la guérilla contre les militaires britanniques dans la zone du canal. Donc, on peut estimer que si on conserve l'étymologie du mot qui signifie donc « prêt à se sacrifier », avec une connotation religieuse, l'usage linguistique du mot « fedaï » montre bien qu'il s'agit de l'équivalent arabe du français « franc-tireur et partisan », c'est-à-dire un civil prenant les armes pour une cause politique, mais ne pouvant être assimilé à un militaire, ce qu'on appelle aujourd'hui un combattant illégal. La première unité de Fedayeen, Fedayeen, est composée essentiellement de volontaires et d'infiltrés, déjà utilisés par les services égyptiens dans les missions de renseignement. Il s'agit de quelques dizaines de personnes qui sont formées au printemps 1955 dans l'armée égyptienne. Le gros de l'effort étant l'encadrement de la bande de Gaza par des gardes nationaux palestiniens pour renforcer la défense. Et dès les derniers jours de mars, on note les premières opérations de Fedayeen palestiniens à partir de la bande de Gaza en territoire israélien, sous forme généralement de mines et de quelques incursions présentes. Dans tout cela, et je vais arrêter là pour aujourd'hui, l'Égypte se retrouve dans une impasse. Potentiel humain, il l'a sans problème pour recruter des soldats. Mais l'armée égyptienne n'a pas d'armement lourd. Il lui faut donc d'urgence trouver une grande puissance capable de lui fournir de l'armement. Alors, suite au prochain épisode, si j'ose dire.